jusqu'à 14h, entre nous, avec Jean-Marc Rachia sur RDL.
Très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode d'Entre nous, le dernier déjà de la semaine, une semaine qui a été courte, qui est passée vite avec ce jour férié. On est vendredi aujourd'hui et on va parler d'un sujet qui vous intéresse, qui vous concerne, parce qu'en fait, c'est un sujet qui nous concerne tous. Et on a le plaisir d'accueillir le docteur Rémi Lombard avec nous. Bonjour docteur.
Bonjour monsieur.
Merci d'avoir appelé moi Jean-Marc. On va finir par être amis d'ici la fin de l'émission, vous allez voir. Vous êtes un spécialiste du sommeil. Et effectivement, le sommeil, ça concerne tout le monde. Moi, j'ai l'impression dans mon entourage de n'avoir que des gens qui se plaignent de leur sommeil.
Alors, c'est pas faux. Hein. Statistiquement, on retrouve que les 30 à 46% de la population se plaint de troubles du sommeil. Mm-hmm. Donc, ça touche une grande partie de la population. Alors, avec des troubles du sommeil assez variés, comme l'apnée du sommeil, les insomnies, le syndrome des jambes sans repos, pour n'en citer que trois.
Oui, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, j'espère. Si je vous dis le sommeil, c'est la vie, vous n'allez pas me contredire.
Ah, forcément, si on passe un tiers de notre vie à dormir, c'est que ça doit servir à quelque chose de la journée.
Très bien, vous restez avec nous. On parle donc de tous ces troubles du sommeil qui vous intéressent très certainement. Vous pouvez réagir encore sur Facebook, sur notre annonce de la venue du docteur Lombard, ou encore par mail entre nous @rdlradio.fr.
Midi 14h, entre nous sur RDL.
Aujourd'hui, on parle de votre sommeil avec un spécialiste du sommeil, le docteur Rémi Lombard, qui est là pour répondre à toutes nos questions, parce qu'on s'interroge beaucoup sur ces troubles qui nous gâchent et la nuit et la journée, parce que si on ne dort pas bien, la journée est un peu fichue, docteur, non ?
On est d'accord.
Alors, justement, on a commencé à les évoquer déjà tout à l'heure, quels sont les principaux troubles rencontrés chez les gens dans leur sommeil ?
Alors, l'un des troubles qui va toucher la plus grande partie de la population, ça va être l'insomnie. Ça touche 20 à 30% de la population. Donc ça va être des difficultés pour s'endormir, des difficultés pour se réendormir lorsqu'on se réveille la nuit, ou alors un réveil trop précoce par rapport au réveil que l'on avait fixé. Avec un retentissement la journée, vous l'avez dit. Hein, il faut qu'aussi on soit fatigué la journée ou qu'on ait des difficultés la journée pour vraiment parler d'insomnie. Ensuite, on va avoir l'apnée du sommeil qui va toucher très grossièrement 10% des femmes et 15% des hommes.
Alors, on s'arrête de respirer pendant un certain temps.
C'est ça,
l'apnée. À partir de combien de temps on considère que c'est une apnée ?
Alors, 10 secondes. D'accord. Ou alors, une hypopnée, c'est une baisse de la respiration. On va dire comme si vous respiriez dans une paille, vous finissez par manquer d'air, vous étouffez, vous réveillez. Mm-hmm. Ou alors, l'apnée, c'est les voies aériennes qui se ferment complètement, la langue qui chute, qui bloque tout. Et on finit par étouffer. On se réveille à chaque fois, soyez rassurés. Mais le problème, c'est que
ça commence à faire peur, là.
Toutes les minutes, eh bien, on ne dort plus dans le sommeil réparateur. Mm. On n'atteint plus le sommeil profond. Et on est en forme la journée.
Insomnie, apnée, quoi d'autre ?
Et le dernier grand trouble, on va dire, ça va être le syndrome des jambes sans repos qui va toucher 8% à peu près de la population. Et en gros, ça va être des personnes qui ont besoin de bouger les jambes le soir. Mmh. Alors, on comprend bien que si au moment d'aller se coucher, si on est obligé de se lever pour bouger les jambes, eh bien, ça empêche de s'endormir. Et ça entraîne des insomnies que l'on va appeler de organiques dans ce cas-là.
Alors, souvent, on s'en rend compte qu'on a des problèmes de sommeil. Quelquefois, on ne peut pas identifier quelle est la cause. Quels sont les symptômes de troubles du sommeil ?
Alors, bon, j'ai évoqué ceux pour l'insomnie. Mmh. Pour les jambes, alors, le syndrome des jambes sans repos, c'est un besoin de bouger les jambes le soir, que au repos, et soulagé par le mouvement, parfois associé à des sensations désagréables. Après, pour l'apnée du sommeil, ça va être le ronflement. Il faut que quelqu'un l'entende.
Ben oui, voilà, il faut un conjoint.
Des apnées entendues par le conjoint. Mais encore une fois, ce n'est pas automatique ni systématique. Et après, on va avoir les maux de tête le matin au réveil, les sueurs la nuit, la fatigue au réveil, la somnolence la journée. Lorsque l'on pique un peu trop du nez, eh bien, ça peut être un signe de mauvais sommeil en tout cas.
Très bien. On parle jusqu'à 13h aujourd'hui de ces dysfonctionnements dans le sommeil, ces troubles du sommeil avec notre spécialiste, le docteur Rémi Lombard.
RDL, entre nous, avec Jean-Marc Rachia.
Et avec le sommeil au sommaire aujourd'hui d'entre nous, avec le docteur Rémi Lombard, qui est un spécialiste, un somnologue même, on a pu lire sur Internet. C'est une profession que vous avez inventée ou quoi ?
Non, c'est un titre qui nous est parfois donné.
D'accord. Spécialiste du sommeil, en tout cas, pour parler aujourd'hui de ces troubles du sommeil. Alors, on sait que le sommeil a plusieurs étapes, on va dire. Est-ce qu'on peut les rappeler ? C'est important parce qu'il y a des phases qui sont peut-être plus réparatrice que d'autres.
Alors effectivement, le sommeil se découpe en cycles, 3 à 6 cycles de 90 minutes en moyenne, face à Paris selon les personnes. Et dans chaque cycle, on va retrouver du sommeil léger, du sommeil profond et du sommeil paradoxal. Alors le sommeil léger, c'est un sommeil dont on peut ne pas se rendre compte. Seulement 50% des bons dormeurs ont l'impression de dormir et 80% des mauvais dormeurs ont l'impression de ne pas dormir. Mmh. Et alors quand est-ce qu'on l'identifie ? C'est quand on pique du nez devant les informations et qu'on se met à ronfler et que votre épouse vous dit « bah, tu ronfles ». ronfle, tu dors. Et vous qui répondez, pas possible, je dors pas. Voilà, ça, c'est le sommeil léger en général. C'est une transition.
C'est le premier dans cet ordre-là.
Alors, le sommeil lent léger de stade 1, d'accord. Le sommeil lent léger de stade 2, c'est, on va dire, une descente de l'éveil vers le sommeil. Une transition, puis vient le sommeil profond. Le sommeil profond est réparateur. C'est là où on va récupérer sur le plan physique. C'est là où on va récupérer sur le plan également de la mémoire. C'est là que les enfants vont sécréter l'hormone de croissance qui vont leur permettre de grandir. Ensuite va suivre le sommeil dit paradoxal ou le sommeil des rêves. Et là, on va plutôt récupérer sur le plan psychique et un autre type de mémoire. Pendant ce sommeil des rêves, le corps est complètement au repos. Mais par contre, le cerveau tourne à plein régime. C'est pour ça que l'on parle de sommeil dit paradoxal.
D'accord.
Voilà.
Qu'est-ce qui fait qu'on se souvient de ses rêves ou pas dans le sommeil paradoxal ?
Alors, ça dépend de chaque personne. Et c'est pareil, y a pas de lien. On peut s'entraîner à se rappeler de ses rêves en les notant systématiquement tous les matins. Ça peut même parfois permettre de prendre le contrôle de ses rêves et devenir rêveur lucide. Voilà.
D'accord. Alors, moi, je me suis reconnu dans aucune des phases que vous m'avez données parce que. Je n'ai pas de sommeil léger devant les informations. Moi, je me réveille. Je me réveille devant les informations en me disant ah zut, j'ai raté la fin du film.
Ah bon.
Mais enfin, on est dans cette phase-là aussi. Vous restez avec nous. On parle de ce sommeil aujourd'hui qui nous joue des tours bien souvent. Comment identifier ces troubles et puis comment surtout y remédier parce qu'il y a des solutions. Ça, c'est important. On est là aussi pour le dire. Il y a des solutions parfois très simples. Il faut pas les chercher bien bien loin. Donc on parle de tout ça aujourd'hui avec le docteur Rémi Lombard.
Entre nous, sur RDL.
Ouais, quand ça plane, ça veut dire qu'on dort bien, en tout cas.
C'est possible,
en tout cas. Bon, c'est notre sujet aujourd'hui, l'endormissement et surtout les troubles du sommeil avec le docteur Rémi Lombard, qui est un spécialiste. Docteur, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou est-ce qu'il faut faire pour faciliter l'endormissement le soir ?
Alors, je vous propose en tout cas 6 points qui permettent d'améliorer grandement la moitié de mes patients qui se plaignent d'insomnie. Mmh. Le premier, ça va être de garder notre horloge biologique à l'heure en se levant tous les matins à la même heure, sans trop se décaler, même le week-end. Voilà, ça c'est important. Ensuite,
pardon, je vous coupe, hein, j'ai des questions qui me viennent comme ça. L'horloge, elle est comment dire, dans nos gènes ou est-ce qu'on peut... On peut la régler nous-mêmes en disant bon ben là j'ai un boulot, je dois me lever à 7h, je décide que...
Alors notre horloge biologique est déterminée génétiquement et elle fait entre 23h30 et 24h30, mais nos journées ne font que 24h et il faut bien la remettre à l'heure par rapport à la journée. Donc
d'accord.
On la réentraîne et notamment par notre heure de lever.
Ok.
Tout à fait. Le deuxième point pour faciliter l'endormissement, c'est d'aller se coucher lorsque l'on est somnolent. On boit lorsque l'on a soif, et bien il faut aller se coucher lorsque l'on est somnolent, et pas seulement parce que c'est la fin du film ou parce qu'on n'a rien à faire.
Mais si moi je veux voir la fin du film.
C'est ça, tant pis.
Il y a les replays pour ça.
Il y a les replays, tout à fait. Le troisième point extrêmement important, c'est qu'il y a des substances qui nous empêchent de nous endormir. Le café, le thé, le coca et le chocolat à grosse dose. Donc évitez d'en consommer trop, on ne dit pas plus de 3 cafés par jour. Et pas après 14 heures si on a des difficultés d'endormissement. Les écrans, nous sommes des animaux diurnes. Notre horloge biologique est effectivement mise à l'heure, notamment par la lumière du soleil. Sauf que notre cerveau ne fait pas la différence entre la lumière du soleil, de l'ordinateur, de la tablette et du téléphone. Donc évitez ces petits écrans dans les 2 heures avant l'heure d'endormissement souhaitée. La télé, c'est pas pareil. Comme elle est plus loin, elle a moins d'impact sur notre horloge biologique quand la lumière arrive à notre œil.
Et la télé dans la chambre ?
Alors la télé dans la chambre, à éviter, ça c'est un gros pourvoyeur de difficultés d'endormissement.
Parce qu'on croit à tort que ça nous aide à nous endormir, parce que ça fait une sorte de bruit de fond comme ça. Mais...
Pour s'endormir, il faut une baisse de température corporelle d'1,5 degré à peu près. Mm-hmm. Lorsqu'il y a une canicule, on n'arrive pas à perdre ce 1,5 degré, on n'arrive pas à s'endormir. Et bien lorsque vous allez dans vos draps, les draps sont frais, vous perdez en température, et puis vous regardez la télé.
Mais oui.
Et vous chauffez les draps. Et puis quand une heure plus tard, vous coupez la télé et vous essayez de vous endormir, vous n'arrivez plus
et
à
voilà.
passer, vous n'arrivez plus à vous endormir.
D'accord.
Et l'un des derniers points, effectivement, ça va être, si le sommeil sert à quelque chose, il sert à récupérer d'une dépense. Pas de dépense, pas de sommeil. Alors gardons une activité physique régulière au quotidien, comme une marche d'une demi-heure. C'est très bon pour améliorer le sommeil, c'est très bon pour la santé et pour le moral.
Alors, on a vu ce qu'il fallait pas faire. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour... l'activité physique, vous venez de le dire. Est-ce qu'on peut prendre des trucs ?
Alors, est-ce qu'on peut prendre des trucs ? Alors, effectivement...
Je dis volontairement des trucs parce qu'il peut y avoir une simple tisane ou jusqu'au médicament.
L'OMS reconnaît l'efficacité de pas mal de plantes, mais on n'a pas d'activité scientifique qui nous montre réellement l'efficacité. Donc, en gros, si les plantes vous permettent d'avoir un rituel sympathique qui vous détend pour aller vous coucher, allez-y. Mais par contre, il ne faut pas attendre de grands effets de ces fameuses plantes et elles ne sont pas reconnues recommander en tout cas pour améliorer le sommeil.
Y compris le CBD.
Et alors voilà, le CBD, j'ai pas beaucoup d'informations encore, j'ai pas encore beaucoup d'études, mais le cannabis dont il est dérivé, on en a un peu plus. Donc le cannabis entraîne une diminution de l'hormone du sommeil, la mélatonine, donc il a tendance à retarder l'endormissement, il diminue le sommeil de rêve, c'est ce qui fait que d'ailleurs quand les gens arrêtent le cannabis, ils font beaucoup de rêves un peu bizarres, parce qu'il y a un rebond, et il augmenterait un petit peu le sommeil profond. Donc ça, en tout cas, ça joue sur le sommeil, le cannabis, mais sur l'endormissement, ça pourrait le retarder en tout cas.
D'accord, très bien. On continue de parler de ça jusqu'à 13h aujourd'hui avec le docteur Rémi Lombard, les troubles du sommeil.
Midi, 14h. Entre nous, sur RDL.
Et entre nous, avec le docteur Rémi Lombard, spécialiste du sommeil, on parle justement de ces troubles du sommeil. Docteur Lombard, ça dure combien de temps une bonne nuit de sommeil? Parce qu'on entend souvent dans notre entourage les gens dire « Moi, si j'ai pas mes 9 heures, je suis un zombie à la journée. » Et puis d'autres qui disent « Non, moi, 6 heures me suffisent. » On n'est pas égaux devant la durée du sommeil.
On n'est pas égaux, effectivement. C'est déterminé génétiquement. 80% de la population dort entre 7 et 8 heures. 10% moins de 6 heures et 10% plus de 9 heures. Donc c'est strictement individuel et même pour une même personne au cours de sa vie, cette durée de sommeil va évoluer. Effectivement, on dort beaucoup lorsque l'on est enfant. Oui. Un nouveau-né va dormir pas loin de 16 heures. À 10 ans, on dit plutôt 10 heures de sommeil. À l'âge adulte, plutôt 8 heures et ça diminue au fur et à mesure de l'avancée dans l'âge. Et puis ça va aussi fluctuer en fonction de votre dépense énergétique. Lorsque l'on court un marathon, il y a des chances qu'on dorme un peu plus que lorsqu'on a passé la journée devant la télé.
Voilà. Les seniors ne dorment pas plus que l'âge adulte ?
Non, on a besoin de moins de sommeil, avec moins de temps de sommeil avec l'âge. Donc d'accord. C'est plutôt moins en fait.
Et pourtant, on dit qu'ils sont plutôt friands d'une sieste, par exemple. Est-ce que la sieste, c'est recommandé ?
Alors la sieste, si elle ne dépasse pas 20 minutes, améliore les performances et la vigilance l'après-midi. Lorsqu'elle dépasse une demi-heure, alors là, on rentre dans le sommeil profond. Et pour sortir du sommeil profond, c'est difficile. Et c'est là que les éveils sont un peu confus. On a du mal à émerger, on a du mal à reprendre le cours de la journée.
Parce qu'il y a des sociétés, je ne sais pas si c'est pas les Japonais ou les Chinois, qui même favorisent la sieste au travail. C'est-à-dire qu'ils ménagent des espaces à leurs employés pour faire la sieste au bureau.
Et il y a eu des études scientifiques très sérieuses qui montraient que ça a augmenté la rentabilité au niveau professionnel que d'avoir ces fameuses siestes de 20 minutes.
Dites-moi, quand on a un déficit de sommeil, c'est-à-dire que bon, on s'est couché un petit peu tard samedi soir, on a fait un peu la fête, et il nous manque 2, 3, 4 heures de sommeil, est-ce qu'on peut rattraper ce déficit de sommeil la nuit suivante?
Alors, on récupère jamais vraiment une nuit de sommeil. L'organisme essaie de compenser un petit peu en ayant un sommeil plus profond, plus réparateur et un tout petit peu plus long, mais on ne le récupère jamais complètement.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Bon. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On vit avec alors?
On essaie d'être le plus régulier, mais il faut quand même avoir une vie sociale, parce que ça permet de réguler l'horloge biologique, donc on s'adapte, on va dire.
Très bien, merci beaucoup. C'est passionnant. On est avec le docteur Rémi Lombard jusqu'à 13h aujourd'hui pour parler des troubles du sommeil.
Jusqu'à 14h, entre nous, avec Jean-Marc Rachia sur RDL.
Avec aussi le docteur Rémi Lombard, qui est spécialiste du sommeil, et avec qui on a passé une heure, qui est déjà presque terminée, à parler de ces troubles du sommeil. Vous vous exercez à Coudekerquebranche, à la clinique des Flandres, c'est ça hein?
Tout à fait.
C'est une unité spéciale consacrée aux troubles du sommeil?
On a créé une unité spéciale exclusivement pour la prise en charge des troubles du sommeil.
D'accord.
Tous les types de troubles du sommeil.
Comment ça marche? Alors, ce sont les médecins généralistes qui vous envoient des patients?
Ah, il y a de tout. Il y a les médecins généralistes. Alors, les patients, en général, vont voir leur médecin traitant en leur disant bah voilà, je suis fatigué, je suis somnolent. Le médecin traitant propose souvent une prise de sang pour éliminer un problème de thyroïde, un problème d'anémie, un problème d'infection. Et puis s'il ne trouve rien, bien souvent il m'envoie le patient. Mais il y a d'autres cas où ce sont les spécialistes qui m'envoient pour rechercher une maladie du sommeil particulière en lien avec une maladie cardiovasculaire. On sait par exemple 80% des personnes ayant une fibrillation auriculaire ont de l'apnée, 80% des personnes qui ont une hypertension réfractaire ont de l'apnée, 86% des diabétiques en surpoids ont de l'apnée également. Donc voilà, dans ces maladies on recherche facilement parce que ça va aggraver les problèmes cardiologiques. Alors je cite ces trois-là, mais il y en a beaucoup plus. Même les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, en bilan, les spécialistes vont m'envoyer les patients. Alors après un entretien, on décide ensemble s'il y a besoin d'aller chercher une maladie spécifique par un enregistrement de sommeil. Les gens viennent passer une nuit à la clinique.
J'allais vous poser la question, c'est chez vous qu'on passe une nuit avec le corps
maison,
branché.
Oui, on met quelques électrodes pour voir si les patients dorment ou non, s'ils respirent ou non, quel est leur taux d'oxygène. Pour certaines pathologies du sommeil, comme les jambes qui bougent toutes seules, ce qu'on appelle les mouvements périodiques, ou les somnambules, eh bien on a une caméra pour voir s'ils se baladent pendant la nuit.
Alors les somnambules, ils se lèvent, ils marchent les deux bras allongés devant eux, ou c'est encore un cliché?
Il y en a, mais on n'en voit pas si souvent et c'est rarement un motif de consultation. Mais effectivement, j'ai eu un patient qui m'avait consulté parce qu'il s'était retrouvé dans sa cour après avoir sauté par la fenêtre sans s'en rappeler.
Ça arrive.
Il peut y avoir quelques dangers du somnambulisme. Mm-hmm. Donc c'est ceux-là qu'on voit, mais ils ne sont pas les plus nombreux, bien heureusement.
Et alors quand on a... j'ai aussi cette image de personnes qui ont tout un appareillage pour la nuit, quand ils ont des apnées du sommeil. Alors, c'est quoi? C'est un appareil qui envoie de l'oxygène, de l'air dans les...
Alors l'apnée du sommeil, on expliquait tout à l'heure que c'était la langue qui venait chuter et obstruer les voies aériennes. Et bien donc le dispositif est juste là pour laisser de la place pour l'air, pour qu'il puisse circuler. Donc il pousse juste la langue en avant. Donc c'est de l'air que l'on souffle pour pousser la langue en avant par le nez, maintenant avec de petits masques et une petite machine qui sont très souvent nettement moins bruyantes que les ronflements.
Ben oui, parce que je m'imagine mal m'endormir avec cet appareil dans le nez, le bruit...
Alors les fabricants sont bien conscients que si c'est inférieur au ronflement, les épouses pousseront les conjoints.
Oui, j'imagine bien. On aurait pu développer, on aurait pu faire 2 heures, je crois, d'émission sur le sommeil.
Sans problème.
C'est passionnant, il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, le temps nous est compté. Merci infiniment, docteur Rémi Lombard.
C'est moi qui vous remercie, Jean-Marc.